Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce 10h midi. On est avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité entre 11h et midi. On parlera évidemment de la droite qui est en miettes, les Républicains. Quel avenir pour les Républicains? Est-ce qu'il y a une place entre le RN et Emmanuel Macron? Et puis entre 10h et 11h, un invité de marque qui fait beaucoup de bruit en arrivant, c'est Gilles Gansman qui viendra nous parler de son documentaire sur Michael Jackson, la mort de Michael Jackson. Pourquoi est-il mort? Comment est-il mort? Ce sera dans quelques instants. Et puis un autre documentaire très fort, le témoignage de cette jeune femme qui a été violée à l'âge de 7 ans et qui, grâce à la justice restaurative, a rencontré son agresseur 33 ans après. Elle va nous raconter son cheminement. Voilà. Et on commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Découvrons les audiences.
Alors Rémi, des audiences en petite forme, c'est ça? On commence avec un carton,
un petit carton, vous avez raison, un petit carton pour TF1. 3 775 000 téléspectateurs et 17,1% de marché pour le retour de Camping Paradis. Bon, TF1 était en tête des chaînes nationales hier, mais c'est 400 000 de moins que la semaine dernière pour la fin de Clem. Bon, le retour de Laurent Ournac alias Tom en 1976 n'a pas vraiment convaincu. Une baisse aussi pour France 2, 3 334 000 téléspectateurs et 15% de part de marché. Pour Meurtre au paradis, la série franco-britannique a perdu 500 000 téléspectateurs elle aussi.
Donc chaque semaine, un peu moins.
Ce moment, on va dire qu'avec le beau temps, je pense que les audiences baissent et c'est saisonnier et c'est toujours comme ça.
Le Gadin, c'est pour qui?
Le Gadin, encore pour M6, 1 851 000 téléspectateurs et 9,6% de part de marché pour les demi-finales du meilleur pâtissier professionnel.
Mais M6, ça marche pas.
Toujours en dessous des 10% de part de marché. La formule professionnelle, là, ça marche pas.
Ça a pas marché.
Puis un Gadin aussi, quand même, pour C'est à vous sur France 5. Le talk show animé par Anne-Elisabeth Lemoine est en dessous du million de téléspectateurs une nouvelle fois. 998 000 exactement. C'est à vous, recevez hier notamment Yannick Jadot. Mais oui, il n'y a pas eu d'effet sur l'audience.
Non, il n'y a pas eu d'effet sur l'audience, effectivement. Mais petite forme, effectivement, pour C'est à vous depuis quelques temps.
Oui, absolument.
Et puis la surprise?
La surprise, c'est pour France 3 hier, 2 660 000 téléspectateurs. 15% de part de marché pour le jour le plus long.
Vous voyez.
Voilà, 900 000 téléspectateurs de plus que le film de la semaine dernière, 800 000 de plus que les magazines du lundi habituellement. C'est un excellent score pour France 3. Les téléspectateurs sont restés jusqu'à la fin. 23h58 quand même, il y a 3 heures, un film en noir et blanc de 62. Mais je rappelle, effectivement, Valérie, vous aviez raison, la distribution incroyable.
John
Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Ryan, Bourville, Richard Burton, Sean Connery, Arletty, c'est dingue.
C'est vrai que le noir et blanc peut aujourd'hui être rédhibitoire. Mais
écoutez, ça se regarde vraiment. Moi, j'ai voulu regarder 5 minutes, puis finalement, je suis resté 3 heures.
Ah oui, vous voyez, vous moquiez de moi hier.
J'avais tort, comme d'habitude. Du côté des talk shows d'Access, à part C'est à vous, quotidien en tête sur TMC, 1 399 000 téléspectateurs. Pour Yann Barthès, il recevait notamment les acteurs du film Yes, il y avait Philippe Catherine, Doria Tillier, William Lebgill, juste devant Touche pas mon poste sur C8, qui fait un bon score, 1 355 000 téléspectateurs. Cyril Hanouna recevait Soprano.
Plutôt bon score pour Cyril Hanouna. Nos auditeurs avec nous, 0826-300-300, vous êtes sur Sud Radio, on vous écoute. Racontez-nous ce que vous avez regardé à la télévision hier. Michel est en ligne avec nous. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Bonjour. Tout le monde.
Bonjour. Alors, vous avez regardé Le Meilleur Pâtissier?
Oui. Ça m'arrive dans l'année, ça m'arrive 5 fois, 6 fois.
D'accord. Et là, pourquoi vous avez regardé hier?
Il n'y avait rien d'autre? Il n'y avait rien d'autre. J'ai zappé un peu. Non, il n'y avait rien d'autre. Mais je n'ai pas regardé longtemps quand même. Par contre. Non. Oui, c'est intéressant. C'est de l'art quand même. C'est magnifique. C'est ce qu'ils font. C'est beau.
Mais c'est moins bien que quand ce sont des particules, des gens, des vrais gens, des gens normaux, j'ai envie de dire. Des monsieur et madame tout le monde.
J'aurais mieux fait d'ailleurs de regarder les campings du paradis, au moins déjà les vacances.
C'est vous qui décidez ou pas qui regarde la télé? Il y a du monde chez vous ou vous êtes toute seule?
Ah oui, là je suis toute seule.
C'est vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes la maîtresse de la télécommande.
Je suis seule, oui.
Le meilleur pâtissier, donc hier, mais vous n'avez pas été convaincue. Sandra nous dit rien regarder, j'ai zappé. C'est vrai que Je sens une tendance quand même globale des gens un peu déçus par les programmes, par la proposition de ce qui est fait, de ce qu'on vous donne à voir à la télévision. Claudie est en ligne avec nous. Bonjour Claudie.
Oui, je voulais vous dire que ça sera une spectatrice de moins parce que j'étais aussi déçue, parce que mes acteurs préférés ont disparu. Alors j'ai regardé, j'ai essayé de regarder un ou deux, puis après je suis passée sur la 3.
Oui, et vous avez regardé Le jour le plus long ?
Voilà, exactement.
Bon, exactement. Et ça vous a plu
Et vous êtes resté jusqu'à la fin ?
Jusqu'à la fin, oui, aussi. Ouais. Oui, oui, mais je m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que c'était plus... Bon, les gens sont bien sur la 2 qui remplace, mais c'était pas comme les autres, quoi. Il y avait...
Sur le feuilleton,
oui.
Meurtre au paradis.
Voilà ce que je voulais dire. Meurtre au paradis, les deux principaux sont partis et c'est dommage.
Bon, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle saison et qu'ils ont changé les acteurs. Ça marche un peu moins bien, vous avez raison.
Ça marche moins bien. Mmh. Bon, un peu de déception d'entendre dans votre voix. Qu'avez-vous regardé hier ? Sandra nous dit oui, c'est écœurant de payer une redevance pour les programmes qu'on a. Écoutez, ce soir, franchement, le documentaire sur la guerre, les secrets du débarquement, qu'est-ce qu'il y a ? Mais pourquoi vous riez ?
Parce que j'ai eu un espoir que vous parliez.
Ah oui, mais c'est après !
C'est après.
Non, mais ce soir, il y aura évidemment le documentaire sur Michael Jackson sur TMC à
23h. 22h50.
22h50, réalisé par Gilles Granzmann, ici présent. Mais avant, le service public, on parlait du service public. Ouais, le service public propose à 21h, avec une vraie mission de service public, ce documentaire qui est assez, ludique, le mot n'est pas bien choisi, mais qui est vraiment passionnant sur les secrets du D-Day,
du débarquement,
comment, on avait le réalisateur hier, donc peut-être Sandra, vous serez, elle dit, j'attends avec impatience le documentaire, oui, franchement, c'est bien, voilà. Michael, regarde pas la télé le soir, écoutez, qu'est-ce que vous faites, Michael, le soir dites-le nous, allez, on va passer...
Attention, il va vous répondre.
On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors,
pour commencer, une petite devinette. Qu'est-ce qui dure 3 minutes par l'espagnol et qu'on attend depuis un an ?
Casa de Papel, la saison 3, la bande-annonce.
Mais ça dure 3 minutes, c'est que la bande-annonce alors.
Ouais.
Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil.
Bon, alors c'est évidemment Casa de Papel. La bande-annonce confirme le retour de Berlin.
Berlin
est pourtant mort à la fin de la saison 2. On le sait quand même. Hein. Les braqueurs et les professeurs sont réunis à Florence pour des retrouvailles. Alors, réponse sur cette résurrection. Alors, beaucoup de gens parient sur un flashback, en fait. Mais on va voir si c'est la suite ou si c'est l'avant saison 2. Rendez-vous le 19 juillet sur Netflix. Et évidemment, la bande-annonce a été énormément tweetée. Retweeté sur la toile. Moi, personnellement, j'attends avec impatience.
Casa
de Papel, numéro 3.
Non, je regarderai la saison 2, mais je connais déjà la fin. Merci, Gilles.
Si vous êtes en retard.
Sérieusement, oui. Vous n'aviez pas vu la mort de... Non. Ah, je suis désolé.
Alors, il est mort, mais il n'est pas mort. Voilà,
je suis désolé, Rémi.
Il n'y a peut-être pas que moi, vous allez voir.
Y aura-t-il une résurrection de la droite après les scores qu'ils ont faits et qui ont fait exploser les Républicains aux élections européennes ? Alors, tout le monde se met sur la ligne de départ pour récupérer la droite. Hier, il y a eu un affrontement dans cet aveu entre Geoffroy Lejeune et le journaliste à l'accent du Sud
Jean-Michel
Apathy, et se sont confrontés sur cette hypothèse de l'arrivée de Marion Maréchal pour récupérer la droite.
S'il faut réunir la droite, il faut trouver quelqu'un de central. Je suis pas sûr qu'avec
elle pourrait être cette personnalité centrale, Geoffroy Lejeune, vous qui la connaissez depuis longtemps.
Je la connais bien, j'en ai pas mal parlé avec elle, y compris depuis qu'elle a quitté la vie politique. En fait, c'est là où Jean-Michel se trompe, mais c'est qu'en fait, peut-être qu'elle le souhaite, mais en fait, elle n'y arrive pas. Et il faut comprendre qu'elle a un problème, un nœud psychologique à trancher vis-à-vis de sa tante, et elle l'a expliqué hier, en fait, elle n'osera jamais l'affronter, parce qu'elle veut pas être celle qui va refaire le duel familial, vous savez, comme le père et la fille, elle l'a dit d'ailleurs hier. Et en fait, je pense qu'elle n'y arrivera jamais.
J'ai entendu Marine Le Pen, elle me l'a dit à moi un jour sur RTL, mon père, arrêtez d'y toucher, jamais j'y toucherai moi. C'était en 2014, en 2015, on lui a coupé la tête.
Donc pour l'instant, j'ai raison.
Ça va vite, l'histoire de famille. On est d'accord, pour l'instant, vous avez raison.
On verra ce que donne l'avenir. Une autre hypothèse sur BFM TV, Ruth El-Krieff, elle s'est demandé si Éric Zemmour ne pourrait pas venir au secours de la droite et se présenter. Eh bien, voici sa réponse.
Éric Zemmour, vous avez envie de faire de la politique ?
Et vous trouvez que je n'en fais pas, là ?
Non, mais je veux dire, non, mais bien sûr, de façon plus active, de façon... plus engagé personnellement.
Mais écoutez, moi, je j'ai l'impression que je fais un gros boulot politique. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire, si la droite est dans cet état-là, c'est qu'elle n'a plus pensé depuis 30 ans. Et moi, j'essaye de l'aider à penser. Je suis là pour aider. J'essaye de transmettre des idées, des analyses, des opinions. Je pense que c'est de la politique. Et c'est de la politique utile.
Est-ce qu'il y aura...
me faire élire comme maire, franchement, j'ai tout le grand respect pour les maires. Hein, c'est un boulot très difficile, etc. Mais je pense que je suis plus utile avec ce que je fais.
Enfin, il me semble qu'il a été approché un moment pour être sur les listes
électorales européennes. Il ne l'a pas fait.
Dans le quotidien, François Bougon, qui est journaliste, sort un livre sur la Chine. Et il a expliqué le différentiel entre la perception qu'on a de la Chine, qui nous inonde de produits, et la réalité sur le terrain d'une dictature.
Aujourd'hui, sous Xi Jinping, c'est une dictature, c'est un système néo-autoritaire. Donc,
c'est ça qu'on ne comprend pas.
C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre parce que ça ne correspond pas à ce que nous, on voulait mettre sur la Chine. C'est-à-dire, on pensait que le développement de la Chine, le fait qu'il y avait des classes moyennes, qu'elles allaient voyager à l'étranger, etc., qu'automatiquement, ça voulait dire qu'elles allaient embrasser la démocratie. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Le régime a changé. Ce n'est plus du marxisme et léninisme à la Mao. C'est un régime néo-autoritaire qui a su conquérir, d'une certaine manière, une population urbaine. Et aujourd'hui, les jeunes étudiants chinois ne manifestent pas, en fait. Une partie sont prêts à accepter la vision historique du régime.
Voilà. Donc voilà, entre la perception et la réalité. Hier, dans Touche pas à mon poste, il y avait également un autre débat autour de l'affaire Neymar, vous savez, de ce témoignage... qui est
d'accusation, une jeune femme qui l'a accusée. Alors ce matin, je lisais qu'elle n'avait plus d'avocat en raison de la très grande contradiction dans ses propos.
Absolument. Ouais. Et hier, donc, le journaliste et auteur Jérôme Gessel était sur le plateau de Cyril Hanouna et il a évoqué l'affaire Neymar. Et vous allez voir qu'elle n'est pas la première à faire ce genre de choses.
Ce qui est compliqué dans ce genre de cas, c'est que c'est toujours parole contre parole. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment une tendance dans le monde actuel, dans le monde du foot actuel, d'accuser les grands joueurs de foot de viol. Rappelons-nous que Ronaldo a été aussi dans le viseur et que l'enquête est toujours en cours sur un présumé viol datant de 2009 à Las Vegas. Aujourd'hui, c'est Neymar. Il y a beaucoup de d'acteurs du monde de football. Il y a eu Brandao, aussi un Brésilien, il y a 8 ans en arrière, joueur de l'OM. Aujourd'hui, dans le monde du football, on accuse quasiment tout le monde. Même le président de la Confédération africaine de football a été accusé de harcèlement. Donc, c'est toujours un moyen de salir la réputation des gens.
Qu'au Brésil, c'est courant.
Alors, au Brésil, ce qui est courant, en fait, ce sont les filles qui courent après les footballeurs.
Ah oui.
On les appelle les Maria Chutera. Et littéralement, ça veut dire les femmes qui s'accrochent aux chaussures à crampons des joueurs. Et leur but, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté au Brésil, c'est d'avoir un enfant avec un joueur brésilien pour assurer ses arrières.
Alors, il n'y a pas qu'au Brésil. Moi, j'ai fait un reportage sur David.
Je vais dire, ça m'est arrivé.
Non, sur David Beckham. Et vous avez, alors elles sont encore plus malines, c'est qu'il y a des groupes de filles qui vont voir les entraînements des espoirs, parce que là, ils sont accessibles, les espoirs de football dont on dit ceux-là, ils vont grandir. Donc, ils vont voir les espoirs de football s'entraîner et commencer à les draguer en misant sur eux, en se disant, bon, peut-être je mise sur le bon cheval, peut-être dans 3 ans, il sera milliardaire.
Enfin, et après, il faut dire que dans le milieu du foot, ben, des histoires, il y a eu l'affaire Zaya, il y a eu quand même pas mal d'affaires qui fait que... Il faut quand même attendre de savoir vraiment ce qui s'est passé entre Neymar et cette fille, parce que là, maintenant, ça se renverse dans l'autre sens et on dit, bon, ben, c'est forcément la fille qui a voulu piéger Neymar. Il lui a payé le billet, elle est venue.
Elle était dans un palace. Et alors, quel rapport ?
Non, mais c'est pas ça. Vous m'avez compris.
Non, mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il la fasse venir du Brésil, quoi. Enfin, quand même. Non, mais c'est le côté hors
France,
sol.
En
France, on a peut-être ce qu'il faut, mais c'est le côté.
Consommer hors... français, madame.
Non, mais c'est le côté hors sol de ces footballeurs qui ont perdu tout sens de la mesure, quand même. Et après,
ça représente pas grand-chose, un billet d'avion.
Ce qui est détestable, c'est aussi le outing qui est fait à chaque fois qu'il y a une affaire comme celle-là, avant même qu'il y ait, comme le dit Rémi, le moindre début de preuve.
Alors après, apparemment, il n'y aura pas d'enquête ouverte en France, puisqu'elle a porté plainte au Brésil.
Beaucoup de commentaires. C'est des chaudes, les Sud-Américains. Et Sandra, il nous dit, les trois quarts des belles femmes brésiliennes sont à la base des hommes. Je ne sais pas, Sandra, je ne suis pas allée vérifier. En tout cas, les photos qu'a mis Neymar, allez voir sur son Instagram, où il a posté carrément, oui. Alors je ne sais pas combien de vues ça a fait, ce serait intéressant de voir, où il a carrément posté toute la conversation qu'il avait eue avec la jeune femme, qui a mis un certain nombre de photos dénudées d'elle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas eu de relations sexuelles.
Alors, du coup, il tombe sous le coup d'une atteinte à la vie privée, parce qu'il a posté des photos d'elle.
Quelle affaire, quelle affaire. Allez, on se retrouve dans un instant pour un témoignage très fort, celui de Mayana Bideguin, qui ce soir propose un documentaire « Rencontre avec mon agresseur ». C'est à suivre dans quelques instants sur Sud Radio. Restez avec nous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On commentera l'actualité, on va parler des Républicains, on va parler également des portables. Est-ce que vous êtes addict, accro à votre portable et vos enfants ont-ils leur portable à table ? C'est en tout cas le résultat d'une grande enquête. On en parlera à partir de 11h. Dans un instant, on parlera avec Gilles Ganzmann de son documentaire qui va être diffusé sur TMC ce soir à 22h50 sur la mort de Michael Jackson. Bon, on était un peu obligés de vous inviter. Non, c'est pas vrai. C'est vachement bien, vraiment. Et puis, on attend Mayana Bideguin qui devrait pas tarder à arriver. En attendant, on va vous donner quelques infos sur ce qui se passe dans le PAF, comme on dit. Donc, on commence avec l'affaire de copie comique. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette affaire de plagiat. Gad Elmaleh, Omer Sisley, ils sont plusieurs à avoir été accusés de plagiat, d'avoir copié des auteurs américains, des humoristes américains. Et la femme de Omer Sisley, Sandra Sisley, sur son compte Instagram, affirme que ce seraient les humoristes Kéron et Baptiste Le Caplain qui seraient derrière ces comptes. Et ça fait beaucoup, beaucoup de buzz. Rémi ?
Alors, en fait, non, ça fait beaucoup de buzz parce que les deux ont démenti dans la même journée. Ouais. Baptiste Le Caplain et Kéraz ont démenti. Baptiste Le Caplain a envoyé.
Kéron.
Baptiste Le Caplain a fait un SMS un peu rigolo en disant c'est pas moi qui a volé l'orange. Et de son côté, Kéron a fait un tweet en disant qu'il approuvait le copie-comique et qu'il était d'accord avec tout ce qui était dit. Que d'ailleurs, il pouvait même lui fournir des informations s'il le voulait, mais que ce n'était pas lui. Et de son côté, Copy Comic a affirmé que c'était absolument pas...
Que c'était pas eux qui étaient derrière. En même temps, Sandra Sisley, si elle affirme ça...
Alors, elle a reconfirmé dans un nouveau tweet
ce matin
que... Elle confirmait ces informations.
La phrase de Kéron quand il dit, je cite, « Croyez-moi, il est impensable qu'une personne puisse récolter toutes ces données sans une aide massive. Et je le répète, je suis fier d'avoir fait partie de cette aide. » Donc, en fait, il reconnaît qu'il
avoir
a participé à l'action de Copy Comic. En revanche, il dément, comme en démentent d'autres, être lui-même le fameux Copy Comic.
À suivre. Et je ne sais pas si on saura un jour qui est derrière. Camille Combal, une info.
Alors Camille Combal arrive ce vendredi pour Plan C. C'est vraiment la nouvelle émission que l'on attend sur TF1. Évidemment, l'idée est de remplacer Arthur, dont les audiences étaient
en chute libre
le vendredi. Donc ça va être une nouvelle émission avec un tas de rubriques. Une rubrique qui est très attendue, c'est le karaoké car. Vous savez, le carpool karaoké qui fonctionne aux États-Unis, où le principe, c'est un animateur américain qui fait monter dans sa voiture une star et qui chante avec elle, comme vous pouvez chanter dans votre voiture à tue-tête. Et donc, il va démarrer cette séquence dont ils ont acquis les droits aux États-Unis et puis avoir différentes rubriques. Mais ce qui a fait parler hier, c'est que dans le tournage de l'émission est apparu Bertrand Charmeroy.
Et si vous vous souvenez,
de TPMP, où ils avaient tous les deux démarré avec des rubriques. Lui s'était essayé à W9, pas avec un gros succès. Ouais. Et il arrive donc là, et donc évidemment, les deux anciens protégés d'Hanouna qui arrivent sur TF1, ça fait beaucoup parler.
Thierry Beccaro, Rémi, non ? Ou alors allez-y, vous vouliez parler de Charles Consigny ?
Parce que c'est quand même un peu toujours le feuilleton de chaque année.
De la fin de On n'est pas couché.
Des chroniqueurs de On n'est pas couché. Donc on a déjà Charles Consigny qui a jeté l'éponge, qui a expliqué qu'il ne voulait pas continuer, qu'il voulait revenir être avocat à 100%. Il dit que cette saison l'a beaucoup intéressé et conforté aussi dans l'idée que le métier d'avocat est ma vocation. On avait constaté que ça se passait pas extrêmement bien pour lui. On nous avait annoncé quelqu'un d'extrêmement engagé, caustique. Je n'ai jamais trouvé qu'il était extrêmement...
Il y a eu quelques clashs avec Muriel Robin, Bernard-Henri Lévy.
Et puis même avec Christine Angot, un peu Christine aussi. Angot, Donc la question qui reste maintenant, c'est est-ce que Christine Angot, elle aussi,
Et l'émission va continuer parce que les audiences samedi dernier, il était en dessous du million, il était à 800 000.
C'est pas la première fois qu'il était en dessous du million, en dessous des 900 000.
Moi, les infos que j'ai, c'est qu'il va s'entourer d'une bande d'humoristes pour un peu avoir une première partie changer, dynamisée et avoir un regard décalé sur l'actualité.
Je pense qu'il faut vraiment qu'il revisite son émission parce que son stand-up au début, c'est interminable. Et puis ensuite, les chroniqueurs, et je pense que ce tandem qui est toujours un peu quiet pendant un moment, était quand même le tandem phare des émissions de fin de soirée, c'est à renouveler, ça ne marche plus si bien que ça.
Thierry Beccaro, donc, qui serait approché pour participer à Danse avec les stars, pensez qu'il peut accepter ?
Alors, il a déjà répondu, il a dit qu'il avait été approché plusieurs fois et il avait dit non. Cette fois-ci, il réfléchit à la possibilité de le faire en disant que, en effet, France Télévisions, la porte n'était pas fermée, mais qu'il n'avait plus d'émissions sur la chaîne. Et donc, si ça pouvait être compatible avec ce qu'il fait au théâtre, il pourrait se tenter. Mais vous savez, c'est compliqué. Hein, parce qu'avant, vous avez des tests avec les danseurs pour voir. Il y a beaucoup de gens approchés pour voir si.
S'il y a des compatibilités.
Oui, voilà. Si vous pouvez rester physiquement sur tout le long. Et donc, il y a plein de gens là qui sont contactés. Et vous n'avez pas été contacté, Valérie.
Ils se retrouveraient dans Danse avec les stars seulement quelques jours après avoir avoir quitté l'antenne sur Motus.
Puisque l'émission s'arrête.
Dernière émission. Bon, après, c'est pas forcément.
Vous, Valérie, on ne vous a pas contacté.
Mais non, pourtant, je vous verrai bien sur avec vous, Gilles. Allez, on se retrouve, dans un instant pour un témoignage inédit, un témoignage très fort avec Mayana Bidgain pour un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 5. Peut-on pardonner à son bourreau ? Rencontre avec mon agresseur. C'est à suivre sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, 10h-11h, les médias ce soir, à ne pas manquer ce documentaire, c'est un témoignage très fort. Comment se reconstruire après un viol ? Est-ce qu'on peut pardonner à son agresseur ? La question peut paraître incongrue, pourtant Mayana Bidgain, vous avez réussi à rencontrer votre agresseur.
Bonjour.
Vous avez été violée à l'âge de 7 ans, 33 ans après, vous avez voulu rencontrer votre agresseur. Ça s'est fait dans un cadre légal que j'ai découvert, fait, celui de la justice restaurative. Restaurative, c'est ça. C'est très récent. L'objectif, c'est réparer à la fois la victime et l'agresseur.
Oui, c'est ça.
Donc, racontez-nous un petit peu comment vous avez eu connaissance, vous, déjà, de cette...
Tout d'abord, juste pour dire la justice restaurative, le but du jeu, c'est vraiment de créer un espace de parole. Vous avez mentionné le mot pardon. En fait, le pardon, c'est pas dans ma démarche. Ouais. Ma démarche, à moi, c'était d'aller le rencontrer, d'aller l'écouter, d'aller lui dire les choses que j'avais à dire, d'aller lui poser des questions qui m'avaient taraudé toute ma vie. Ouais. Et c'est deux choses totalement différentes.
Donc, vous ne lui avez pas pardonné ?
Ah, mais l'acte qu'il a posé sur moi est impardonnable.
Ben oui.
Je ne vais pas pardonner quelqu'un qui fait du mal à un enfant, qui lui fait ce qu'il m'a fait ou qui fait à n'importe qui et les conséquences que ça a dans la vie. Non, mais moi, je détache l'acte qu'il a posé à un moment donné, dans un certain contexte, de la personne qu'il est aujourd'hui. Il y a plus de 33 ans qui se sont écoulés et j'ose espérer et je pense qu'il a changé. Et moi, je suis allée rencontrer la personne qu'il est aujourd'hui. Et s'il est venu me voir, c'est justement parce qu'il avait évolué.
Et quand vous parlez d'acte impardonnable, comment vous avez réussi à vous projeter et le rencontrer, justement, ne serait-ce que le rencontrer. Je comprends bien que ça a été répondre à vos questions, mais en même temps, c'est ce qui frappe quand on regarde ce documentaire. Comment vous avez fait ?
Mais en fait, comment j'ai fait, c'était juste un besoin vital. En fait, normalement, je n'aurais jamais dû le rencontrer. Mmh. Cette personne-là, quand ça s'est passé, quand j'avais 7 ans, moi, j'ai pu rentrer chez mes parents, leur dire ce qui s'était passé. Ils m'ont écouté, ils m'ont entendu, ils m'ont cru. Mmh. Et ils ont fait la démarche d'aller voir la police. Et la personne, dans les jours qui ont suivi, a été retrouvée. Il y a eu un procès, elle a été condamnée. Mais ce n'était pas quelqu'un de ma famille. Ce n'était pas du tout quelqu'un de mon environnement. Et donc, moi, je n'ai jamais recroisé sa route. Et normalement, je n'étais pas appelée à la recroiser. Mmh. Si ce n'est qu'effectivement, plus tard.
Plus tard, il s'est passé, il y a eu un événement, c'est-à-dire que vous avez découvert dans un journal qu'il était accusé de viol à nouveau.
C'est ça. C'est ça.
Et là, comment c'est... Parce que moi, la justice restaurative, je n'en avais jamais entendu parler. Comment vous en avez entendu parler? Et racontez-nous un petit peu comment ça se passe et comment la justice vous aide. Parce qu'il ne s'agit pas de faire toc-toc, de retrouver, d'aller parler à cet homme. Non. C'est extrêmement encadré.
C'est ça. C'est un encadrement, c'est complètement sécurisé. Pour pouvoir mettre en place un protocole de justice restaurative, la demande, elle peut venir des deux côtés, que ce soit de la victime ou de l'agresseur. Ces personnes-là font appel, soit s'ils sont en détention, par exemple, du côté de l'agresseur, à leur conseiller pénitentiaire, soit du côté de la victime, via les associations d'aide aux victimes. Et du coup, la demande va être analysée, un médiateur va rencontrer le demandeur de la rencontre, et il va se mettre en place toute une série de rencontres qui permettront, au fil du temps, c'est un processus qui dure au minimum un an, ouais, en général, et une fois par mois, on se rencontre, on pose des questions, comment on va, est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on attend de la rencontre, qu'est-ce qu'on a envie de dire, on a vraiment besoin de tout préparer avec ce médiateur. En parallèle, le médiateur va contacter l'autre côté, et l'autre côté va décider d'accepter ou pas, parce que ce n'est pas obligé,
c'est pas obligatoire.
Ou pas la rencontre. D'ailleurs, dans les cas où la personne en face ne souhaite pas la rencontre, il peut y avoir quand même une médiation, mais faite par objet interposé, par une lettre ou par une vidéoconférence.
Mais est-ce que ça ne peut pas être à double tranchant et rouvrir une blessure et puis faire face à la personne quelques années plus tard? Est-ce que ça ne peut pas être replongé dans quelque chose qu'on avait peut-être essayé d'oublier?
Les personnes qui décident de faire ce chemin-là, de la justice restaurative, c'est des personnes qui ont un peu avancé dans leur cheminement et qui sont au point où elles ont besoin d'exprimer quelque chose. Mmh. Et cette expression, elle passe par cette rencontre. Alors, ça ne sera pas forcément un dialogue aussi serein que ce que j'ai pu avoir moi avec mon agresseur. Mais parce que moi, il se trouve que moi, j'ai dépassé la colère et je n'ai jamais ressenti de la haine. J'avais des interrogations, je voulais comprendre pourquoi ça s'était passé, parce que c'était totalement anormal et tellement violent. Mais moi, je n'ai pas ressenti de la haine, parce que cette personne-là, je ne l'ai jamais vue autrement que comme un homme. Et alors, je sais que ça surprend énormément quand je dis ça, mais c'est vrai, parce que pour moi, les monstres n'existent pas. C'est des personnes qui, à un moment donné, posent un acte. Il n'y a pas d'excuse pour cet acte-là. Mais ces personnes-là, elles ne sont pas appelées à être que ça. Elles ont toute une vie, elles ont tout un autre potentiel et aussi la capacité peut-être justement de faire du bien à d'autres personnes.
Mais est-ce que quand on dit ça, ce n'est pas le début d'une excuse?
C'est pas une excuse que de considérer un être humain comme un être humain.
Non.
Ça vous gêne pas qu'il soit en liberté?
Alors, oui. Moi, je pense que les pas qu'il a fait pour venir jusqu'à moi démontrent qu'il y a vraiment un désir de reconstruire sa vie autour de nouvelles valeurs et des valeurs positives. Et moi, je vais pas lui enlever ça.
33 ans après.
Ouais. Ouais. Oui, après, vous m'auriez posé la question quand j'avais 15 ans ou quand j'avais 18 ans et que c'était une catastrophe avec mes premiers amoureux, j'aurais peut-être pas répondu la même chose.
Oui, c'est ça. Je pense qu'avec le temps passé, mais lui, dans sa démarche, 33 ans après, il le dit, hein, parce qu'on, vous avez une, il le dit qu'il a vécu avec ça tout le temps.
Oui. Ouais.
Et comment on juge de la sincérité de sa parole à lui? Parce que quand on l'écoute, moi, très honnêtement, je sais pas, j'ai un doute. Je trouve qu'il fait des phrases trop bien tournées. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui ressort un discours de psy. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous le dites à la fin. Oui. Mais dès le début, j'avais cette impression. Oui. Je ne sais pas comment vous vivez ça.
Il s'est préparé à me rencontrer et il a essayé de trouver les mots. Alors, qu'il a préparé de la même manière que moi, j'avais aussi préparé mes questions et que je savais où je voulais aller, les choses que je voulais aborder. Alors, est-ce que c'est un discours préparé? Peut-être. Est-ce que c'est un discours nécessairement faux pour autant? Moi, je donne le bénéfice du doute. Je choisis de croire qu'il est possible que ce soit vrai aussi.
Ça fait partie
de la construction. C'est pas une possibilité à complètement.
Pourquoi vous avez eu envie de le filmer? Et est-ce que ça a été, c'est Mélissa Torio qui est la productrice, pourquoi avoir eu envie de le filmer et de montrer cette rencontre? Vous êtes la première, encore une fois, je le répète, à utiliser cette justice restaurative.
Alors,
En France, parce qu'il y a une séquence très intéressante au Québec. Mais pourquoi vous avez eu envie de le montrer?
Mais justement, intime. Parce que c'est complètement méconnu. Ouais. Et que, en fait, au cours des dernières années en particulier, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes qui m'ont raconté, quand moi je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé, quand je leur ai expliqué le début de ma démarche, et qui m'expliquaient leurs propres expériences. Et alors, pour le coup, on parle de victimes qui ont été détruites, mais pas uniquement par ce qui leur est arrivé, mais même parfois le procès pénal, l'enquête, ça les laissait mais encore plus dévastés.
Avec aucune réponse, ce que vous dites.
Alors,
il n'y a pas de réponse,
sans réponse,
c'est vraiment la question.
Et sans possibilité d'avoir ce dialogue qui permette de trouver des éléments. Alors, pas forcément toutes les réponses. Mais le fait de ne pas avoir une réponse concrète, ben moi, en tant que victime, le fait de par exemple, il ne peut pas me répondre complètement le pourquoi.
Oui.
Et il n'arrive pas à se l'expliquer lui-même.
Mais vous pensez qu'il y en a vraiment un? Parce que c'est un peu le nœud du documentaire. Ouais. Est-ce que ça ne peut pas être simplement de la folie, un vice ou autre chose? Et pas, il n'y a peut-être pas d'explication concrète que vous attendez?
Alors, peut-être qu'il ne les a pas trouvés. Moi, je pense qu'il y a des clés encore à creuser et qu'on peut trouver.
Bah là, c'est ce que dit Valérie, là, c'est le pardon. Dès que vous pensez, parce qu'il raconte sa vie d'enfant battu, de choses comme ça. Et,
mais moi, je peux ressentir de l'empathie pour l'enfant battu qu'il a été. Bien sûr. Il a été un enfant battu avant d'avoir été un violeur. Et lui, à cette époque-là, il était une victime. Et qui l'a écouté, cet enfant-là? Ah, je sais, je vous déroute là.
L'un des objectifs, c'est de.
Mais je ne l'excuse pas, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a été victime soi-même qu'on va devenir bourreau.
Voilà, c'est ça.
Et effectivement, à un moment donné dans sa vie, lui, il a fait ça, il y a eu cette impulsion-là. C'est tout un contexte. Hein. Je n'ai pas donné tous les éléments de sa vie, mais il y a vraiment tout un contexte qui faisait qu'il avait ce sentiment d'être surpuissant et surtout que quoi qu'il fasse, personne n'irait lui chercher noise. En fait, il a été extrêmement surpris quand les policiers sont venus et qu'ils lui ont dit que c'était par rapport à ce qu'il m'avait fait. Il est tombé des nues. Mais il n'a compris que beaucoup plus tard, en fait, pendant son temps d'emprisonnement, d'incarcération, que ça pouvait avoir une conséquence.
L'un des objectifs, c'est de faire baisser le taux de récidive. Vous pensez que c'est réaliste?
C'est plus que réaliste. Ça a été prouvé par les études à partir
Québec,
des cas qui ont été faits au Québec.
Au Québec, et en France, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes après vous?
Alors, c'est encore dans un mouchoir de poche.
Ouais, c'est au stade expérimental.
Il y a une dizaine de personnes. Alors, il faut savoir que la justice restaurative, il y a plusieurs types d'outils. Ouais. Il y a les rencontres directes, les médiations directes, comme celles que moi j'ai faites. Mais il y a aussi des rencontres indirectes. C'est-à-dire que si une victime ou un agresseur ne veut pas ou n'est pas en capacité d'aller rencontrer son propre agresseur, on peut rencontrer quelqu'un qui a fait un crime similaire et qui lui a fait aussi ce cheminement de prise de conscience et de prise de responsabilité.
Il y a un témoignage très intéressant d'un Québécois d'ailleurs qui raconte lui qui est du côté qui a été criminel. Et qui raconte comment sa vie a changé complètement suite à ces rencontres.
Ça. Très concrètement, si on a des auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent, qui seraient intéressés, qui on contacte, comment ça se passe?
Alors, du côté victime, effectivement, il faut passer par les associations d'aide aux victimes. Alors, soit France Victime, soit RIPER, soit l'IFJR, l'Institut français pour la justice restaurative. Et du côté agresseur, ceux qui sont passés par la détention, ils peuvent passer par leur conseiller d'insertion pénitentiaire et mettre en place après les dispositifs.
Rencontre avec mon agresseur, ce soir, 20h50 sur France 5. Ce sera suivi d'un débat. C'est animé par Marina Karadankos. Vous serez sur le plateau. En tout cas, vraiment, c'est un document unique et passionnant à voir avec tous ces exemples. Et puis de voir... Moi, je n'avais pas envie qu'on parle trop du documentaire parce que ce que je vous ai dit quand vous êtes arrivé, j'avais plein de questions et en fait, vous y répondez.
Ah bon, mais ça va.
Non, vous y répondez
dans le
documentaire. Mais c'est en tout cas très intéressant. Merci beaucoup, Mayana Bidguin, d'être venue ce matin sur Sud Radio pour nous parler donc de ce document à regarder ce soir sur France 5. Dans un instant, on se retrouve avec Gilles Gansman.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
La L'invité du jour, ce n'est pas Michael Jackson, c'est Gilles Ganzman, mais c'est pour parler de Michael Jackson.
Du voilà. J'ai changé, c'est gentil, c'est, m'inviter, bah, ça fait plaisir.
Il se trouve que vous êtes réalisateur, producteur, fan de musique, et vous avez réalisé ce documentaire qui va passer ce soir sur TMC à 22h50. Qui a tué Michael Jackson? C'est un reportage, c'est une enquête. Vous êtes allé à Los Angeles, c'est pas une bio. Vous êtes intéressé en fait aux causes de la mort de Michael Jackson. Donc, tout le monde sait que c'est l'injection de propofol qui l'a tué, sauf que c'est un long cheminement et c'est ce que vous racontez dans ce documentaire.
En fait, quand vous prenez les grandes stars qui meurent un peu tôt, que ce soit Amy Winehouse, Elvis Presley ou autre, il y a eu beaucoup de polémiques, comment ils sont morts, qu'est-ce qui les a tués, pourquoi ils disparaissent aussi jeunes, et Jackson pas. Jackson, on a accepté qu'il était mort à 50 ans, sans, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il y a eu un petit procès avec le docteur Murray, qui a fait 4 ans de prison quand même. Mais on ne s'est pas demandé pourquoi il était mort à 50 ans, c'est la question que je me suis posée. Et évidemment, j'ai commencé à tirer les fils, parce qu'en effet, c'est le docteur Murray et le propofol qui l'a tué. Mais ça, c'est que la conséquence, et pourquoi il en arrive à se faire injecter du propofol, et comment un médecin est dans sa chambre pour lui donner ses doses. C'est pas, tout ça n'est pas normal, donc je raconte cette histoire-là, et je raconte pourquoi plusieurs de ses choix vont aboutir à sa mort.
À sa mort, parce qu'il n'y a pas que cette injection mortelle, il y a beaucoup de choses que vous retracez. Vous êtes allé à Los Angeles, vous avez interrogé ses proches, ses frères,
j'ai fait la dernière
amis,
interview
et
père.
La dernière interview de son père qui est un drôle de personnage, on en avait beaucoup parlé.
Peut-être ce qui fera polémique dans le documentaire, c'est que moi, je restaure entre guillemets le père et sa mémoire. Il faut savoir que Michael Jackson naît à Gary, qui est une ville de l'Indiana. Et pour vous donner un petit peu une idée, Gary, c'est là où est né le Ku Klux Klan. C'est là où la haine des Noirs est née. Il faut dire que à Gary, quand vous avez des enfants et des garçons, ils dépassent rarement les 18-20 ans à l'époque, parce que c'est la ville la plus criminalisée des États-Unis à cette période, où il y a des gangs, où il y a beaucoup de drogues qui circulent. Ouais. Et Joe Jackson, lui, il avait 6 garçons et il n'avait pas du tout envie qu'ils deviennent des voleurs, des brigands, et il va les élever à la dure.
Il va les élever à la dure, donc il les a sauvés, mais il les a aussi un peu...
Oui, bien sûr, et puis surtout, un jour, il s'aperçoit qu'il a un fils qui a un talent, qui s'appelle Michael Jackson, et c'est sa mère qui lui rapporte ça, parce qu'il fait du tap dance, enfin des claquettes dans une laverie, et il se dit, mon fils va nous sauver de la misère, il ne va plus l'élever comme un fils, mais comme un champion.
Comment vous avez vécu la polémique autour, enfin les accusations, le documentaire qui a été diffusé par M6 de pédophilie, c'est vrai que ça jette une ombre, même si on en avait déjà entendu parler, ce sont deux témoignages qui sont assez forts, donc quand on est réalisateur, qu'on travaille depuis un an sur un documentaire et qu'il y a ça qui arrive, comment on fait?
C'était très compliqué, parce que ça a donné, c'est-à-dire que logiquement ce doc, il a été décidé avec Christophe Kozarek de Jara Prod, ça a été décidé avec TF1, ça a été décidé il y a 2 ans, en se disant la mort de Michael Jackson, les 10 ans de la mort de Michael Jackson, c'est quelque chose qu'on va célébrer, il va avoir pas mal de choses. Démarrons et puis racontons cette histoire. Au lieu de faire une bio, on se disait que les autres chaînes allaient faire des bios. Et puis d'un seul coup, il y a eu ce documentaire d'HBO auquel on ne s'attendait pas, qui est sorti, et ça a changé. C'est-à-dire que là, on est à 15 jours de l'anniversaire de la mort de Michael Jackson. Rien n'est organisé par les héritiers. Il devait avoir les Jackson 4, donc ce qui reste des Jackson, qui devait faire un concert à Paris, qui a été annulé. Il devait en avoir un à Londres, qui a été annulé aussi. Et du coup, on ne fête plus ça, on ne parle que de la pédophilie de Jackson et pas des 10 ans de sa mort.
Oui.
Donc évidemment, mais, ça a changé un peu le contexte.
Vous prenez quand même assez nettement parti dans le documentaire sur cette affaire. Toujours est-il que malgré tout vous prenez parti, puisque vous donnez la parole aux proches de Michael Jackson, Linda Deutsch, Buzz Cohen, qui expliquent tous que la famille Arvizo est une famille qui a quasiment manipulé Michael Jackson
pour de l'argent.
Donc c'est quand même un parti pris fort.
C'est pas un parti pris, c'est les résultats de la justice. Il y a eu un procès.
Il y a eu une transaction.
Ah non, pas sur les Arvizo.
Sur
la première, je raconte.
Les Arvizo sont eux qui ont fait croire que leur fils avait un cancer pour approcher...
Au départ, dans le documentaire, il y avait un témoin qui disait soi-disant cancer. On l'a enlevé pour des raisons juridiques. On ne sait jamais en tout cas, il est en vie, il vit à Stockholm, tout va très bien. Mais on ne sait jamais si la mère a utilisé une fausse ou vraie maladie. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un procès, il y a eu une enquête du FBI depuis 10 ans, et sur 10 accusations qui ont été faites, il a été lavé des 10 accusations par
à l'époque, par le procès.
À l'époque, par le procès.
Donc votre sentiment, c'est que le documentaire à charge est faux.
Non, c'est plus compliqué.
C'est encore autre chose.
Mais c'est autre chose. Ouais. Mais en tout cas, dans, les affaires dont je raconte, il a été complètement lavé. Et c'est pour ça que les témoins. En fait, moi, les témoins, je ne les ai pas interviewés sur la nouvelle affaire. C'est ça qui aurait été intéressant, c'est de retourner. Mais ça changeait le monde doc.
Mais là, vous êtes intéressé effectivement à la mort de Michael Jackson.
Pourquoi? Comme vous le voyez, quand même, ça l'a énormément touché, puisqu'à la fin de cette affaire, ce que je raconte.
Ça fait partie
de son processus.
Mais Linda Dutch dit même, je pense que le procès l'a tué.
Donc qui recommence juste après, enfin qui soi-disant il aurait eu des relations, c'est bizarre.
Il y a des choses aussi incroyables, je trouve, que moi j'ai apprises.
Oui, moi j'ai appris beaucoup de choses en fait.
Que, par exemple, après sa mort, tout ce qui s'est passé après sa mort, et que notamment on a découvert, enfin en tout cas dans le testament, que les enfants ne toucheraient l'argent que quand ils auraient 45 ans. Et vous faites un truc qui est vraiment très bien, c'est que vous expliquez ça, en quelle année ça va tomber. C'est-à-dire c'est en 2045, 2040.
C'est quand Macron aura 65 ans, c'est ça, je dis, et 102 ans ou 103 ans.
Oui, pour protéger ses enfants en fait, il a fait ça.
Oui, parce que Jackson avait été entouré de charlatans. Alors, je crois que ça l'amusait beaucoup, mais il y a eu des mages, il y a eu des gens qui sont venus pour essayer de toucher un peu au magot. Et puis, un petit peu plus tard, au cours de sa vie, il s'est aperçu qu'il avait eu plein de gens autour de lui. Il y a une histoire que je raconte pas, mais qui est très drôle, qui est un jour, il y a un Allemand qui est venu le voir en lui disant qu'il était sûr que c'était un grand peintre. Alors, il est parti en Allemagne pour faire de la peinture, pour faire... Des tableaux qui sont des croûtes monumentales, mais lui se croyait peintre et autres. Et vous savez qui a acheté pour 3 milliards, enfin 2, enfin je ne sais plus la somme, mais vous pouvez aller sur le web, c'est une somme énorme, un tableau de Michael Jackson, c'est Lady Gaga.
Ah oui.
Lady Gaga a chez elle après, une croûte de Michael Jackson après sa mort.
Ça a de la valeur.
Mais voilà. Donc oui, ils hériteront très tard.
Ce qui est assez...
2042, 2043 et 2047. Voilà ce que vous expliquez.
Ce qui est assez fascinant aussi, c'est les doses de il était totalement toxico. Parce que le docteur Murray lui a injecté, il n'arrivait pas à dormir, donc lui a injecté, vous mettez c'est très bien monté, c'est très efficace chronologiquement, toutes les doses qu'il a reçues. Et il y a un cardiologue que vous interrogez qui dit, n'importe qui, vous et moi, on aurait eu ça, on dormirait pendant 24 heures. Et lui, pendant 24 heures, pratiquement 12 heures, ne dort pas. Et donc, le propofol, c'est...
On est
c'est
un peu dans la même histoire que Marilyn Monroe, vous savez, qui prenait beaucoup de drogue pour dormir et beaucoup de drogue pour tenir et se réveiller. Et puis, c'est un peu ce qu'il a tenu. Il y a un peu cette même chose. Non, ce qui est intéressant, c'est que le propofol, qui est le produit qui va être injecté, le propofol, vous en avez déjà eu, Valérie et Rémi, puisque le propofol, c'est juste un nouvel anesthésiant qu'on a découvert, qu'un anesthésiant très intéressant, parce qu'on sait doser, on est capable de dire, vous allez vous réveiller dans 20 minutes ou dans 40 minutes. On sait, avec ce produit-là, avoir un horaire de réveil, ce qui n'était pas le cas avant. Vous savez, vous vous réveilliez, vous étiez un peu dans un réveil un peu flou, vaseux, ce qui n'existe plus avec le propofol.
Oui, mais votre docteur, le docteur que vous interviewez, Jean-Christian Farco, là, qui explique que le propofol ne devrait être délivré que dans un établissement hospitalier, sous l'observation
dans une salle de réveil. Et Farco me dit que s'il avait été dans un hôpital, il y aurait eu une alerte d'une crise cardiaque, la machine aurait sonné, il aurait pu être sauvé.
C'est certainement pas la première fois qu'il l'utilisait, mais vous expliquez aussi ce qu'on voit dans le documentaire aussi, qui est assez étonnant, c'est la manière dont il était extrêmement mal entouré, où il a fait le docteur Murray déjà, qui n'avait pas beaucoup de scrupules, et puis les affaires qu'il a faites.
Il y a une chose qui est vraie dans, s'il y a une chose vraie dans le documentaire de HBO et sur lequel je suis un peu d'accord, c'est que c'était un manipulateur. C'est qu'il savait très bien manipuler. Et moi, il a vraiment, et je le raconte, manipulé le docteur Murray, qui est devenu un peu son dealer et sa chose et sa marionnette. Il était endetté et autres. Et qu'en effet, il avait l'habitude quand même d'en faire qu'à sa tête et d'acheter des choses juste incroyables et qu'il n'écoutait pas. On lui disait de vendre son catalogue des Beatles ou de vendre
Neverland,
ce qu'il n'a jamais voulu faire. Et vous verrez que
il y a une grande partie du documentaire qui est consacrée à Neverland et à la visite de Neverland. Voit vraiment ce qu'était Neverland.
On se rend compte c'est aussi très intéressant, parce qu'on dit comment c'est possible qu'il soit en déficit.
Oui, c'est
avec ça. Puisque en fait il gagne 15 ou 20 millions de dollars par an, sauf qu'il en dépense
15 millions de plus.
15 millions de plus tous les ans.
Tous les ans. Et Neverland, c'est très intéressant parce que c'est la seule entreprise qui ne rapporte pas d'argent, mais qui coûte 1,2 million par mois. Vous imaginez 1,2 million par mois pour nourrir les animaux, pour entretenir les manèges. Il y a 120 personnes qui travaillent à Neverland, donc 120 salaires à faire. C'est une vraie industrie.
Et le responsable du manège, par exemple, c'est exceptionnel, le témoignage. Il explique que Michael Jackson l'appelle en direct et dit « J'ai vu tel manège, je le voudrais ». Cette semaine.
Ouais. Il y a évidemment l'histoire de Pepsi et du clip qui est peut-être le point de départ, le point de départ de l'addiction,
de sa toxicomanie.
On voit des gens qui ont eu des accidents comme cela et qui n'arrivent plus à sortir des médicaments, des antidouleurs. Donc il y a tout un tas de choses. C'est passionnant, vraiment. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est pas parce que c'est vous, mais j'ai appris plein de choses. Et c'est vraiment intéressant sur le...
Dommage que ce soit en deuxième partie de soirée.
Voilà, on aurait bien aimé le voir plus tôt, mais on pourrait le voir en replay. Ouais. TMC ce soir à 22h50, qui a tué Michael Jackson ? Donc un documentaire réalisé par Gilles Gansman. 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, c'est particulier. Calls, ça s'appelle. C'est la première série du label Création décalée pour Canal+. 10 épisodes de 10 minutes sans images. Alors ça, c'est assez incroyable pour la télé. Avec un suspense incroyable, un casting de voix étonnant et puis une expérience, c'est du jamais vu. Alors, regardez un programme télé sans images. On a demandé à son réalisateur, Timothée Hochet, de nous convaincre de regarder ce drôle de programme.
Call, c'est une série qui vous propose une expérience étrange et mystérieuse. C'est 10 histoires d'une dizaine de minutes chacune qui vous plongent dans le noir et qui jouent avec votre imaginaire. Des appels téléphoniques, des conversations privées, des enregistrements sonores qui vous font témoigner d'étranges événements à travers le son, mais pas seulement, aussi à travers l'image. On voulait vous montrer qu'il n'y avait pas besoin de gore pour vous faire frissonner, pas besoin de démons pour vous faire vivre en enfer. Chaque histoire peut s'écouter, mais aussi se regarder indépendamment, mais toutes sont liées les unes aux autres. Tous les épisodes seront instantanément sur MyCanal.
Rendez-vous sur MyCanal pour regarder Call.
Bon, et très bien. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé
ce soir?
À la télé,
il y a une grosse offre. Il y a Manifeste, la série sur TF1. Cellule de crise sur France 2 sur les dessous du débarquement. Tandem, une série policière. Il y a Rencontre avec mon agresseur sur France 5. Maison à vendre sur M6. Et puis, sur TMC, il y a Elton John, La vraie histoire, histoire d'amour, qui est juste avant votre documentaire, Gilles, à 22h50, Gilles que je rappelle. Donc,
ça va être dur.
C'est grosse concurrence. Heureusement qu'il y a le replay et qu'on peut revoir tous ces programmes. Je pense que
Manifeste arrivera quand même en tête.
Se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. Merci à vous. On se retrouve tout de suite, 0826 300 300. À tout de suite.